Les œuvres du peintre espagnol Sorolla sont à découvrir à la Fondation Bemberg, Isabelle Duché.
Grâce à la collaboration entre la Fondation Bemberg et le musée Sorolla de Madrid, l'exposition Sorolla, maître de la lumière, est proposée jusqu'au 13 septembre à l'hôtel d'Acesa à Toulouse. Et pour nous la présenter, nous sommes avec Anna De Benedetti, directrice de la Fondation Bemberg. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors, on se demande quand même, au premier abord, quel est le lien qui relie la Fondation Bemberg et ce peintre Joaquín Sorolla.
Alors, c'est un lien qui se situe dans l'art du 19e siècle et dans les avant-gardes, puisque le fonds Bemberg est très riche en avant-garde. Et malheureusement, nous n'avons pas de Sorolla, mais nous pensons que Georges Bemberg aurait été très sensible à cet artiste et qu'il n'a sans doute pas eu l'opportunité d'en faire l'acquisition. D'où l'idée évidemment de présenter ce peintre en complément de la collection permanente. Et puis il y a aussi beaucoup de liens avec Pierre Bonnard qui a fait le voyage d'Espagne. Et on pense que, on est sûr qu'il y a il y a une affinité en tout cas d'esprit entre ces deux peintres. Et comme vous le savez, la collection Bemberg a un fonds très important de tableaux de Pierre Bonnard.
Mmh, c'est vrai. On va essayer de faire connaissance avec Joaquín Sorolla parce que tout le monde ne le connaît pas. Et pourtant, il est vraiment à découvrir si ça n'est pas encore fait. Il a vécu entre 1863 et 1923. Il est espagnol, mais il a reçu de nombreuses distinctions en France. Quelles sont les grandes étapes de sa vie d'artiste ?
Oui, alors c'est vraiment la France qui va le faire rentrer sur la scène artistique internationale. Joaquín Sorolla, c'est un peintre, le très grand peintre du 19e siècle espagnol. Il est aussi connu en Espagne que Goya ou Velázquez. Mais paradoxalement, il est assez peu connu en France du grand public, d'où aussi la volonté de promouvoir ce grand artiste à la Fondation Bemberg. Il va, au début de sa vie, comme tous les jeunes artistes, courir les salons et les concours. Et donc, ça va d'abord être des grandes scènes d'histoire qui sont exactement la demande des salons. Et puis, il va petit à petit découvrir sa voix et il va aussi, évidemment, se présenter à des concours et des salons français, notamment le salon de la Société des artistes à Paris, pour lequel il va présenter ce grand tableau d'une scène de labeur marin, des bœufs qui tirent sur le rivage une barque en bois très lourde et que vous pouvez toujours d'ailleurs admirer à Orsay. Donc il gagne la médaille d'or, l'État l'achète pour à l'époque le musée du Luxembourg qui recueille tous les artistes contemporains. Et puis, c'est là qu'il se fait connaître. Et puis, ça va aller assez rapidement, ça va aller assez vite. La galerie Georges Petit, donc l'un des principaux soutiens des impressionnistes, va l'inviter à présenter son œuvre. Donc, une exposition en 1906 va être organisée où il va présenter plus de 200 toiles qui sont toutes vendues. Et de là, ça s'enchaîne, grand succès. La Crafton Galleries à Londres, et puis ensuite New York avec la Hispanic Society of America, puis Boston, Chicago, St. Louis.
Oui, en fait, il a connu un succès mondial quand même,
De son vivant, il a connu un succès fulgurant. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu très modeste, qui s'est fait lui-même, qui a un succès international très important. Alors, il faut savoir qu'il peint aussi énormément, et il a un grand talent de portraitiste. Et c'est notamment au contact de la société des stars de l'époque, de la société de l'intelligentsia de l'époque, qu'on va évidemment solliciter sans pinceau pour se faire représenter. Et c'est là qu'il a une aisance financière, qu'il commence à connaître une aisance financière très importante.
Bien que le portrait ne soit pas son genre préféré.
Alors non, c'est pas son genre préféré au sens de portrait posé, parce que lui, ce qu'il aime évidemment, c'est de peindre dans le plein air, sur la plage, de saisir l'instant, de capter la lumière, de capter les reflets colorés dans les éléments naturels. Et effectivement, ces grands décors naturels se prêtent aussi à des portraits touchants de sa famille en particulier, mais ce ne sont pas des portraits posés. Donc l'exercice de se plier à quelque chose de statique, de fermer finalement, est un petit peu difficile pour lui, mais il s'y prête quand même volontiers parce que ça lui assure une aisance financière, de pouvoir évidemment pour assurer sa famille, et puis surtout de pouvoir construire à partir de 1910 sa maison atelier dans le centre historique de Madrid, une maison magnifique qui va accueillir deux grands ateliers et puis des appartements dédiés à sa famille, et il l'entoure de quatre jardins qui seront très importants dans sa carrière. Ce sont quatre jardins d'inspiration andalouse et d'inspiration italienne, et qui va devenir effectivement la dernière source d'inspiration, mais aussi le refuge après, pendant son travail, sa tâche titanesque qu'il occupe à partir de 1911 pour la Hispanic Society of America, qui lui commande un cycle de 14 panneaux pour sa bibliothèque, donc quelque chose de très important, et qui va être aussi le lieu, évidemment, des retrouvailles familiales, donc un vrai sanctuaire.
Oui.
Et cette maison-atelier va devenir, à sa mort, sous la volonté de sa veuve, Clotilde, le musée Sorolla, que nous connaissons maintenant, et qui est notre partenaire pour cette manifestation toulousaine.
Et donc la boucle est bouclée, voilà, ce musée Sorolla qui est le partenaire de la Fondation Bimbert. Vous avez précisé, Anna de Benedetti, que Sorolla peignait des portraits, certes, mais des scènes de vie, vraiment des modèles vivants, dont sa femme, qui a été vraiment sa muse et sa grande inspiratrice, Clotilde. Et puis, ses trois enfants, son fils Joaquin, qui avait le même prénom, et puis ses deux filles. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ce qu'il peint comme scène de vie familiale, finalement?
Bien sûr. Alors, le grand thème de l'art de Sorolla, c'est la mer. La mer, les rivages, la côte méditerranéenne et la côte océanique, bien sûr, la côte cantabrique, comme on l'appelle, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Saragosse. Et il peint ce qu'il voit. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il dit, même qu'il écrit. Moi, j'admire ces peintres qui restituent ce qu'ils voient. Et donc c'est ce à quoi il va s'attacher, et c'est évidemment d'abord les labeurs marins. Alors pas non plus cette pénibilité marine, mais vraiment cette dignité du travail, d'une vie dédiée au métier de la mer, à la pêche et autres. Et aussi évidemment à cette époque, eh bien, les enfants qui vont courir sur la plage, les enfants de ces marins qui les premiers profitent des plaisirs des bains de mer, puisque à l'époque, je le répète, on ne va pas sur la plage, on ne va pas aller par exemple prendre des bains de soleil sur la plage, ça ne se fait pas du tout. Par contre, on va s'y retrouver éventuellement, s'abriter dans des grandes chaises corbeilles, comme on peut le voir d'ailleurs dans les esquisses de Sorolla. Et on y va tout habillé, bien sûr, et souvent en élégante. Donc on a ces deux mondes, on a ce monde marin qui travaille et qui s'y divertit. Et puis on a le monde de ces élégantes, puisqu'on est à la belle époque, et ces élégantes sont incarnées en premier par sa femme, ses filles, et puis son fils Joaquin, qu'il peint à l'envi se promenant sur les jetées de Biarritz, assises sur les bords de mer, sous leurs ombrelles colorées. Et donc, c'est vraiment ce monde-là qui est très important pour lui. Et Clotilde, qui est, comme vous l'avez dit, sa grande muse, l'amour de sa vie, avec lequel il a vraiment vécu un bonheur familial sans comparaison, va être également celle à qui il va dédier le plus de portraits. Dans tous les portraits qu'il a fait, que ce soit des portraits spontanés ou des portraits figé, préparé, effectivement, c'est Clotilde qui a le plus de portraits.
Avec ce tableau qui est absolument magnifique à la Fondation Bimbert de son épouse Clotilde, qui vient d'avoir un tout petit, et donc qui est allongé et qui se repose après la naissance de ce tout petit. Et c'est une scène très naturelle, très intime, mais par sa simplicité, elle est belle finalement. Et c'est assez rare de voir ce genre de sujet.
Oui, c'est un tableau intime, c'est un tableau en même temps qui est un tableau virtuose, parce que c'est une symphonie de blancs, et on voit que tous les blancs ont une couleur finalement. Ils peuvent être un peu gris, un peu orangé, un peu rosâtre, un petit peu violet. Et donc c'est un tableau monochrome, un grand édredon blanc d'où lesquels émergent deux petites têtes, la tête de Clotilde et puis celle d'Elena qui est nouveau-née, qui est le dernier enfant de Joaquin. Et c'est le grand chef-d'œuvre du musée Sorolla, qu'ils nous ont fait la gentillesse et la générosité de nous prêter, et qui accueille donc le visiteur dans cette seconde partie qui est le grand thème, le deuxième grand thème de Sorolla, qui sont les portraits. Et dans l'exposition, vous pourrez découvrir des portraits au naturel, comme je l'ai un peu expliqué, et puis aussi des portraits commandés, puisque nous avons un portrait, par exemple, d'une star du cinéma de l'époque, Raquel Meller, qui a une histoire assez intéressante, parce que pour l'anecdote, elle a été un des grands amours de Joaquin, le fils, et c'est Joaquin qui demande à son père de faire le portrait de Raquel Meller. Apparemment, les parents ne voyaient pas cette relation d'un œil très favorable. Et puis la coquine va en plus briser le cœur du pauvre Joaquin parce qu'elle va l'abandonner. Et donc il en aura le cœur brisé. Voilà.
Et outre ces portraits, on va dire académiques et puis plus vivants, si on peut dire, vous avez parlé, Anna De Benedetti, de ces jardins. Et c'est vrai que c'est aussi une source d'inspiration pour Joaquin Sorolla.
Alors, c'est une grande source d'inspiration. C'est finalement la dernière source d'inspiration et ça va être pour nous notre troisième thème de l'exposition. Les jardins, qui va le découvrir à partir de 1907, hein, quand il va à une résidence estivale royale, San Ildefonso de la Grandra de San Ildefonso, où il va pour faire le portrait du couple royal. Et il va découvrir là-bas le premier grand jardin, qui est un lieu tout à fait intéressant pour lui, parce que c'est un lieu hybride, semi-urbain, mais en même temps naturel, en même temps sauvage, qui offre beaucoup de points de vue avec les ombrages, les frondaisons, les miroirs d'eau, les fontaines. Donc il y a une forme d'architecture qui lui offre beaucoup de déclinaisons et de points de vue. Et il va découvrir finalement une nouvelle source d'inspiration. Et à ce moment-là, il va aussi commencer à travailler, quelques années plus tard, pour l'Hispanic Society of America. Et pour cette grande tâche qu'on lui commande, il va vouloir aller à la rencontre des peuples d'Espagne, à la rencontre du territoire espagnol. Il va donc commencer à voyager sans relâche et à découvrir, évidemment, les grands jardins du sud de l'Espagne.
L'Alhambra,
et puis l'Alcázar,
oui.
Qui offre aussi d'autres perspectives tout à fait intéressantes, avec ce soleil très, très, très blanc que l'on connaît, hein, et qui va finalement parfois écraser toute velléité de perspective. Donc on a la figure qui va progressivement s'effacer des compositions. Toute la composition va se concentrer sur ces perspectives géométriques, ces géométries silencieuses, ces ombrages, ces contre-jours, qu'il a déjà exploité d'ailleurs, mais qu'il va exploiter d'une façon un peu différente, un peu plus peut-être linéaire, et qui va donc donner lieu à cette troisième grand thème. Et à ce moment-là, il a également sa maison-atelier entourée de ses jardins fabuleux, qui vont devenir aussi son havre de paix, son refuge, puisque sa santé commence à finalement à être un petit peu atteinte avec tous ses voyages. Son médecin lui demande de se reposer, et c'est dans son jardin qu'il trouve repos et source d'inspiration.
Et source donc, d'inspiration.
Voilà, les derniers tableaux, c'est des tableaux de son jardin.
Tout simplement. Merci beaucoup, Anna De Benedetti. Je rappelle donc que vous êtes la directrice de la Fondation Bimbert. Vous avez présenté ce matin l'exposition Sorolla, maître de la lumière, une magnifique exposition à découvrir jusqu'au 13 septembre à l'hôtel d'Assesa à Toulouse.
Merci beaucoup.